Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Et si nous replongions le temps d'un Popopop dans ce monde que les moins de 80 ans ont eu le bonheur de connaître, celui de la fin des années 60 et du début des années 70, où se télescopèrent quelques utopies dont on aurait pu rêver qu'elles laissassent quelques traces, tant il était question de paix, de fraternité, d'ouverture des chakras, de refus d'une société du rendement et de la consommation frénétique, et enfin de l'éveil à d'autres formes de conscience. Et ce n'est pas un vieux bab qui vous parle. J'étais trop jeune à l'époque pour être bab, enfin un baba actif, comme je serais trop vieux quelques années plus tard pour être punk, mais c'est une autre histoire. Yves Bigot, l'homme qui est assis en face de moi, et bien que mon cadet, a le mérite, entre autres, d'être l'un des tout meilleurs journalistes musicaux de l'Hexagone, doublé d'un homme à la mémoire si phénoménale qu'elle rendrait jaloux un troupeau d'éléphants. Et c'est par un jeu de miroir subtil où se mêlent histoire personnelle et histoire tout court qu'Yves Bigot nous emmène faire une passionnante balade de l'autre côté du miroir, justement. Cette émission a pour titre Big Up à Bigot. Hop, 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 c'est parti.
France Inter. Hop, hop, hop. Antoine de Gaulle.
Bonjour, c'est Yves Bigot. Je suis aujourd'hui l'invité d'Antoine de Gaulle. Et j'en aurais mis du temps, mais je publie mon premier roman.
Enfin. Enfin un premier roman. Après toutes ces années. Le roman que nous attendions, Yves. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce temps perdu?
Une dizaine d'essais sur les thèmes les plus divers.
Ouais,
Brigitte Bardot,
suite, ouais.
Michel Berger, ouais. Saint-Tropez, le football, les rockstars que vous connaissez, ouais. Antoine.
Et c'est la somme en fait de tout ça, ou c'est tous ces textes-là qui ont permis au roman finalement de voir le jour?
Je suppose que ça a été de l'entraînement, mais le déclencheur, ça n'a pas été ça. Je pense qu'il y a deux déclencheurs. Il y en a un d'abord, c'est j'ai aidé quelqu'un à écrire ses mémoires. Et je me suis aperçu que c'était assez facile finalement quand on déroulait une histoire dès lors qu'on l'avait en tête, alors que je me faisais, sans doute parce que je suis ami avec des gens qui écrivent remarquablement et spectaculairement bien plus que moi, comme Bayon ou Laurent Chalumeau, pour n'en citer que deux. J'avais sans doute un complexe à la fois de la fiction et d'aller jusqu'au bout. Et puis l'autre déclencheur, c'est certainement la période qu'on vit aujourd'hui, qui est exactement l'antithèse, le négatif de tout ce que vous avez décrit dans votre généreuse introduction.
Alors toi. Yves, avant d'aller plus loin, d'abord jouons la transparence. Nous ne sommes pas tout à fait des inconnus l'un pour l'autre. Nous nous connaissons même depuis quelques années et nous avons travaillé ensemble sur une émission qui avait pour titre Rapido. Voilà, c'est dit. Mais comme je le répète à chaque fois, ce n'est pas parce que nous nous connaissons que je vous invite à Popopop. Non, plutôt, je croyais vous connaître, je connaissais vos talents de plume, mais là je découvre, enfin, vous avez raison de le dire, un romancier. C'est une casquette de plus, après celle d'homme de radio, de télévision, de journaliste, de rédac-chef, de patron de chaîne, de spécialiste du foot, d'essayiste. Non, je ne sais plus, la cour est pleine.
Ouais, je m'ennuie rapidement.
Non mais c'est quoi cette bougeotte infernale?
Mais c'est exactement ça. C'est peut-être le syndrome du Gémeaux, la bougeotte, et le syndrome Rapido.
Une conjugaison, la tour était rapido.
Passer d'un truc à l'autre, et puis je pense que, comme le disait si bien Dylan, celui qui n'est pas occupé à naître est occupé à mourir. Donc faut sans cesse faire des choses nouvelles, et puis grandir. C'est mieux que vieillir.
Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Dylan dans l'heure qui vient. Tout ce que vous avez publié jusqu'à ce jour, comme vous le rappeliez à l'instant, tourne autour de sujets qui vous touchent intimement. Le rock, le foot, Michel Berger, Saint-Tropez, Brigitte Bardot, la chanson française. Mais alors, là, c'est vraiment une
Brigitte
histoire...
Brigitte Bardot ne m'a pas touché intimement.
Oui, je me comprends. Je me comprends. Oui.
Mais là, pas c'est... d'ambiguïté non plus.
Non, ne vous inquiétez pas. Mais là, vraiment, c'est une histoire très personnelle que vous nous racontez à travers l'histoire de Catherine.
Puisque c'est un prénom néerlandais comme mon héroïne.
Vous l'indiquez dans le livre comment on le prononce, mais oui, j'ai un tel problème avec les langues. Oui. Bon, enfin, une jeune hollandaise vraisemblablement assassinée à l'âge de 24 ans, en 74. Et on va parler de son incroyable histoire avec Charline dans quelques instants. Flaubert disait, Emma Bovary, c'est moi, Catherine, c'est vous.
C'est moi, bien que je ne sois pas, Antoine, une jeune fille de 17 ans, néerlandaise, entre l'été 66 et l'été 68, comme elle.
Vous le regrettez?
Surtout à mon âge. Non, jeune fille, je ne sais pas, mais 17 ans, oui.
Bon, on va en reparler de la fameuse Catherine, c'est impossible à dire. Bon, moi je l'appelle Catherine. Au fait, vous qui savez absolument tout en musique... D'ailleurs, je me suis toujours pas remis de ce quiz. Vous m'avez mis une pâtée, c'était en 1989. Savez-vous quel chanteur...
C'était dans Lunettes Noires pour Nuit Blanche,
absolument,
au Palace.
Savez-vous, vous voyez la mémoire dont je parlais tout à l'heure. Savez-vous quel chanteur de soul américain on surnommait justement le Bigot?
Alors, de Soul, non.
Je l'ai collé. Otis Redding, évidemment.
Ah oui, bien sûr.
Oui, c'est l'une des plus belles voix des années 60. Et on va parler avec vous, évidemment, de cette époque d'espoir et de naïveté perdue, puisque c'est un des sujets du roman. Catherine, sorti en novembre aux éditions Encre de Nuit. Oh, je suis tellement content de l'avoir eu. Mais avant tout, mettons-nous dans l'ambiance. Je vous propose de commencer par écouter un morceau phare de cette période dont il est beaucoup question dans le livre. C'est Somebody to Love de Jefferson Airplane. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love. On vient d'écouter le Jefferson Airplane, c'est un groupe mythique de la scène san-franciscaine de la fin des 60s, avec Yves Bigot qui vient nous parler de son roman Catherine, mais avec lequel, pour commencer, nous avons beaucoup d'autres sujets à évoquer, à commencer par le foot. Oui, j'ai bien dit le foot, auquel vous avez consacré un livre passionné en 96, sobrement intitulé Football, car Yves, vous fûtes commentateur, fan, spécialiste, mais aussi footballeur vous-même, vous intéressiez même dans votre jeunesse l'AS Monaco, si mes informations sont bonnes.
Ouais, tout à fait, parce que je suis de Saint-Tropez, donc tropézien, je jouais à l'US Saint-Tropez, dont l'entraîneur de l'équipe première, qui évoluait en division d'honneur, était Henri Biancheri, donc ancienne star de l'AS Monaco, hein, qui avait réussi le doublé et joué en équipe de France au début des années 60, et c'est lui qui m'avait signalé au club de la Principauté. Voilà, mais ça n'a pas duré et ça n'a pas donné grand-chose par la suite.
Alors, vous n'êtes pas devenu praticien, mais la passion n'a pas faibli. Vous êtes aujourd'hui supporter d'une équipe en particulier ?
À l'AS Monaco.
L'AS Monaco, évidemment.
et l'Ajax d'Amsterdam, comme mon héroïne, d'ailleurs.
Ah oui, vous ménagez la chèvre de chou, si je comprends bien. Ça. Bon, je me dois de vous poser la question, parce que c'est un débat que les fans de foot continuent pour le plaisir à l'infini. Quel est pour vous le plus grand footballeur de tous les temps ?
Johan Cruyff.
Ah, ni Pelé, ni Maradona, ni Messi, Cruyff.
Alors, il pourrait l'être, mais Cruyff est
Parce que hollandais.
parce que hollandais, parce que l'Ajax Amsterdam, parce que le total football, parce que un jeu, une générosité, et puis un style. Vous savez, les hollandais de 1974 avec les cheveux sur les épaules, etc. C'était, voilà, pour nous, c'était nos héros parce qu'ils nous ressemblaient. Et c'est eux qui faisaient que le monde du football, à travers l'Ajax Amsterdam, à travers le Feyenoord de Rotterdam et l'équipe nationale des Pays-Bas, était pas ringard.
Je vois.
Je vous crois
sur parole, mais j'observe quand même qu'il y a un tropisme hollandais dans tout ce que vous me racontez.
Oui, bien sûr. Oui.
Le sujet de votre roman, l'Ajax, le Cruyff. Bon, c'est pas manqué d'ailleurs de respect au Saint-Tropez Football Club que de dire que ce n'est pas le principal atout de votre ville de cœur, car vous avez grandi donc à Saint-Tropez et vous lui avez aussi consacré un livre, La folle et véridique histoire de Saint-Tropez. Ça, c'était en 98. Alors, je parlais tout à l'heure de sujets intimes. Ce qui déclenche votre écriture, Yves, sous forme d'essai ou de roman aujourd'hui, c'est toujours lié à quelque chose que vous avez approché de très près, de très perso, en fait.
Je ne peux écrire que sur ce que je connais ou que j'imagine à partir de choses que je connais. Je ne saurais pas écrire de la science-fiction ou même du polar pur. Noir, j'ai pas ce type d'imagination. En revanche, ce qui me motive, c'est toujours d'écrire le livre que j'ai envie de lire, mais que personne d'autre que moi n'a écrit.
Ou ne pourrait écrire.
Alors, tout le monde peut toujours faire mieux que moi, c'est pas la question.
Enfin, personne ne pourrait se mettre à votre place pour le raconter.
Ça, effectivement, ça serait assez difficile, sauf à ce qu'on échange nos fauteuils.
Ce que nous avons déjà fait par le passé. Bon, pour la plupart d'entre nous, Saint-Tropez, c'est elle.
Mais toi, t'es vraiment con.
Tu sais que ça te va mal de dire des mots vulgaires?
Ça me va grave. Écoute, trou du cul, putain, merde, nom de Dieu, piège à con, saloperie, bordel. Alors, tu trouves que ça me va toujours mal ?
Moi, je trouve que ça lui va très bien, Brigitte Bardot, évidemment, dans le mépris. Mais pour vous, Yves, en dehors de Brigitte Bardot, comment définir cette ville ? C'est quoi, un port de pêche, un haut lieu de fête, un peu des deux ?
Saint-Tropez, c'est la petite ville la plus célèbre au monde. Mais surtout, moi, c'est chez moi. C'est là où j'ai grandi et quand j'y retourne, comment vous dire, dans ces ruelles ou au pied de l'église ou à la citadelle ou même sur le port, etc. J'y ressens une sérénité qui est, je pense, liée à l'innocence et que je connaissais quand j'en repartais ces rues, parce que j'étais enfant et quand on est enfant, tous les emmerdements qu'on va connaître par la suite, j'ai eu la chance de ne pas les connaître.
Brigitte Bardot, à qui vous avez d'ailleurs aussi consacré un livre.
La croisais évidemment dans les rues de Saint-Tropez quand j'étais gamin.
Et Brigitte Bardot, le titre de votre livre, c'était « La femme la plus belle et scandaleuse au monde ». Ça, c'était en 2014. Vous êtes donc, j'en déduis, plus bébé que Beyoncé.
Alors, j'aime beaucoup Beyoncé, Knowles aussi, mais Brigitte Bardot, alors, d'abord, j'ai grandi avec elle, avec son image, en la croisant encore une fois à Saint-Tropez. J'allais nager dans la baie des Canebiers contre le mur de la Madrague, donc c'était une présence familière. C'était la raison aussi pour laquelle tous les gens qu'on croisait dans Saint-Tropez étaient là, et tous demandaient, mais où est donc la maison de Brigitte Bardot? Et ils étaient très déçus quand on leur montrait la Madrague, qui est une toute petite maison rose au bord de l'eau, alors qu'ils s'imaginaient que c'était... C'est exactement la même déception que les gens quand ils découvrent Graceland à Memphis, où habitait Elvis, parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir un château de la Loire. Ben non, c'est une demeure modeste. Mais Brigitte, elle a... D'abord, il faut toujours juger les artistes qu'à leur sommet, pas à leur moyenne. Et dans Le Mépris, et Dieu créa la femme, et quelques autres films, c'est une actrice absolument exceptionnelle. Et par ailleurs, je pense, et c'est peut-être là qu'il y a un lien d'ailleurs, pour le coup, avec mon roman, c'est que pour moi, c'est la plus grande féministe de l'histoire. Alors, justement parce qu'elle n'avait pas du tout conscience de l'être. C'était ontologiquement qu'elle a représenté, incarné pour des millions de femmes partout sur la planète, justement le fait qu'il n'y avait aucune raison que les femmes fassent quoi que ce soit de moins et n'aient quelques droits de moins que ce soit que les hommes.
Alors, je survole un petit peu votre existence pour que ceux qui ne vous connaissent pas puissent avoir une idée du loustique qui est assis en face de moi.
Tel un drone.
On a parlé de bébé, on a parlé de Saint-Tropez, on a parlé de foot. Vous voyez évidemment la musique qui occupe une place absolument capitale. Vous adorez Bob Dylan, Hein, oui. C'est un fait connu. Certains ont crié au scandale quand Dylan a été a reçu en 2016 le prix Nobel de littérature. Vous, ça vous a choqué? Vous avez trouvé ça, au contraire, tout à fait naturel?
Alors moi, je le réclamais. Alors je vous rassure, hein, non pas auprès des Nobel, mais j'avais été interpellé à plusieurs reprises dans différents journaux, etc. Notamment au moment où il avait reçu la Légion d'honneur des mains d'Olivier Filippetti. J'avais dit, mais c'est pas tant la Légion d'honneur qu'il faut donner à Dylan, c'est le prix Nobel de littérature. Ouais. Donc le fait qu'il l'ait eu, moi, ça n'a fait que démontrer finalement ce que j'expliquais à tout le monde depuis 40 ans.
Ouais.
Et ceux qui ont critiqué cette attribution, qui sont d'ailleurs presque exclusivement des Français,
ouais. Pierre Assouline,
notamment, ben, je pense que c'est simplement qu'ils ne comprennent pas à la fois, peut-être d'abord suffisamment l'anglais d'une part, mais d'autre part, ils ne comprennent pas ce qu'est cet idiome qui est le rock et la chanson américaine, qui inclut toutes les autres pratiques artistiques.
Ouais.
Là-dedans, il y a de la littérature, il y a de la poésie, il y a de la philosophie, mais il y a aussi de la peinture, il y a de l'art contemporain, il y a évidemment de la musique, il y a absolument tout à l'intérieur de ça, mais tout le monde.
À moi,
mais je sais, Antoine, mais tout le monde n'a pas les outils pour le comprendre.
Ouais, ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, ce Dylan, ce rock, cette période de liberté extraordinaire des années 60 qui sont au cœur de votre roman, Catherine. On va en parler dans quelques instants avec Charline qui va nous rejoindre. Mais avant, écoutons ceci, justement, un peu de Brigitte Bardot avec Gainsbourg.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
Prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Et voici que vient de nous rejoindre, non pas Bonnie, mais Charline Roux, vêtue d'une ravissante tunique indienne, mais
bien
d'une
sûr.
Picardie et abondamment parfumée, avec de quelques effluves de chanvre, de chèvrefeuille, de lilas des bois aussi, j'ai l'impression.
Non, et de betterave, c'est la Picardie, mon ami.
Charline, vous avez lu le roman d'Yves Bigot, alors dites-nous qui est Catherine.
Je m'appelle Catherine Murren, je suis morte le 5 mai 1974, j'ai été assassinée sur la Nationale 347, un peu après la sortie de Rison Holton, j'ai vécu 24 années et 3 mois. C'est le début de votre livre. Le livre s'attache donc à retracer le destin de cette jeune femme, une épopée rock'n'roll. Mais pourquoi donc avoir choisi d'ouvrir le roman par la mort de votre héroïne?
Parce que 1974, justement, ça correspond à la fin des idéaux qu'elle portait, mm-hmm. et donc du chemin, cette espèce de road trip où elle a suivi, alors d'abord les provosts d'Amsterdam, ouais. qui ont inspiré mai 68 en réalité, ouais. puis ensuite le Swinging London, et enfin les hippies de San Francisco et du festival de Monterey, ah. qui est un peu l'apex ouais. de cette période. Et 74, c'est le moment, la crise pétrolière, et puis la mid-generation qui prend la main, et c'est le début aussi du capitalisme spéculatif, donc qui met fin à tous ces idéaux. Donc il y avait quelque chose dans le calendrier, ouais. voilà, qui faisait que ça montrait que ces idéaux, ces rêves mouraient.
Antoine vous a demandé il y a quelques instants de manière très flaubertienne si Katrina c'était vous. On aura compris que non, mais dans quelles circonstances vos routes se sont-elles croisées, si toutefois elles se sont croisées?
Alors, je me suis effectivement inspiré d'une Katrine que j'ai connue, qui a été ma compagne, mais après l'histoire que je lui ai fictionnée d'avant que nous nous rencontrions.
Alors, Yves Bigot, ce voyage de Katrine est une fuite, et on a l'impression que c'est une parabole, un peu comme si toutes les années 60 avaient été une échappée belle destinée à être rattrapée et finalement éliminé. Vous avez essayé de comprendre ce qui s'était passé exactement ce 5 mai 74 quand on a découvert le corps de Christine.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je raconte ouais. comment ça s'est passé dans le roman, mais comment elle et la génération qu'elle incarne s'est fait rattraper. D'abord, l'humanité est névrosée. Mmh. C'est, pour moi, c'est ça l'explication fondamentale pour laquelle cette espèce de rêve qu'on a caricaturé de Peace and Love, ouais. Etc., qui était beaucoup plus en réalité créatif que ça, parce que les hippies, c'était pas les babas de chez Stéphane Collaro, c'était la plupart du temps des artistes ou au moins des artisans, mais des gens qui étaient créatifs, qui voulaient faire des choses, qui voulaient changer la vie au quotidien. Et tout ça s'est effondré. Alors, il y a eu le rôle des drogues dures qui sont arrivées, qui ont suivi les drogues douces ou les drogues spirituelles, comme le LSD, qui était la recherche d'une spiritualité, d'une éventuelle divinité, etc. Alors, il y a des théories qui disent évidemment que c'est les agences du gouvernement américain qui ont introduit la cocaïne et l'héroïne pour... justement briser le mouvement. Et puis il y a eu le fait que comme souvent c'est une espèce d'âge d'or comme ça qui a duré quelques années et puis qui s'est effrité par le retour à une réalité, puis l'incapacité aussi de cette génération qui cherchait une quête qui était tellement spirituelle et de l'altérité et personnelle et le communautarisme, mais qui était contre l'idée même de la politique, et donc incapacité de prendre le pouvoir. Et si on ne prend pas le pouvoir, c'est le pouvoir qui vous prend.
Le roman est raconté à la première personne, c'est la voix de votre héroïne qui se fait entendre. Pourquoi cette première personne et qu'est-ce qu'elle vous a permis?
Alors, elle m'a permis d'abord justement de me mettre dans la peau d'une jeune fille de 17 ans, mais c'était ça le plus évidemment difficile. Mais pourquoi je m'y suis risqué? Parce que j'espérais pouvoir raconter par la fiction ce que le reportage et le documentaire ne peuvent pas faire passer, c'est-à-dire les sentiments, le ressenti, l'intime. Après, la métathèse sexuelle, c'est un procédé littéraire qui est utilisé par Flaubert, donc évidemment, mais beaucoup...
Laurent Chalumeau récemment.
Oui, aussi, aussi. Mais sauf que lui, il ressemble beaucoup plus à son héroïne que moi.
C'est go musicaux.
Mais aussi parce que moi j'aime beaucoup les poètes romantiques anglais, William Blake, Percy Shelley, Lord Byron, mais Shakespeare aussi a utilisé la métathèse sexuelle beaucoup. Alors, eux, ils le faisaient souvent pour masquer leur homosexualité aussi. Mais c'est un procédé, je trouve, qui est très intéressant, même si aujourd'hui, certains le contestent et disent « mais un homme ne peut pas écrire une femme ne peut pas écrire un homme », etc. Moi, je pense au contraire que d'abord, il y a une charge érotique dans cette manière de se transformer dans un genre qui n'est pas le sien, et qui du coup apporte un certain charisme, parce que le charisme, c'est l'équilibre en fait entre la partie masculine et la partie féminine dans un être ou dans un objet culturel d'ailleurs.
Yves, on croise dans ce roman une génération, les Beatles, Marianne Faithfull, Allen Ginsberg, Jim Morrison et bien d'autres. C'est une fiction, mais chacune de ces rencontres aurait pu se produire au moment et dans les lieux que vous mentionnez.
elle s'est produite elle dans les lieux, ouais. Le jour, l'heure.
Et,
non, c'est vrai. J'ai, mais j'ai évidemment vérifié tout ça. Quand Catherine rencontre Jim Morrison au grand Gathering of the Tribes dans le Polo Field de San Francisco, dans le parc du Golden Gate, j'ai bien vérifié que oui, Jim Morrison était là à cette heure-là, et que le soir, il était bien en concert au Fillmore de San Francisco, en première partie du Grateful Dead. C'est-à-dire que toute la partie qui n'est pas la fiction, donc l'histoire de mon personnage et des personnages autour, autour d'elle, toute cette partie-là est rigoureusement exacte.
Alors, rigoureusement exacte sur les présences aux endroits décrits, mais pour autant, ces éminences qu'on croise au fil du roman, est-ce que ce sont des versions fantasmées ou leur participation à l'intrigue a valeur de document ?
Non, pour moi, elle a valeur de document puisque elle est vérifiée. Les concerts de Pink Floyd ou du Grateful Dead que je décris, ou le Festival de Monterrey, c'est à partir de documentation très exacte. Il n'y a pas de part. C'est très à la mode dans la littérature aujourd'hui d'imaginer, mais qu'est-ce qu'aurait fait Keith Richards ou qu'est-ce qu'aurait fait Bob Dylan, etc. Non, là, c'est pour ces personnages-là, tout est historiquement exact.
Parce que je pense à une rencontre en particulier. Votre héroïne fait la rencontre d'une figure décrite comme christique, une rencontre qui tient de l'épiphanie en la personne qu'elle ne reconnaît, ou plutôt ne connaît pas, de Jim Morrison. Pourquoi avoir fait de lui cette créature-là ? Et d'ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher, en lisant le livre, de me demander s'il était transposé aujourd'hui, à qui vous auriez prêté cette aura ?
Ah, Jim Morrison, aujourd'hui ?
Ne regardez pas.
Comme ça... Oui, Antoine, je ne pensais pas tout de suite à vous. Mais je ne saurais pas dire, parce que je ne vois pas du tout aujourd'hui qui aurait la démesure absolument incroyable.
Que et vous décrivez.
Cette espèce de folie poétique, philosophique, peut-être excessive d'ailleurs, qu'il y avait dans Jim Morrison, et puis ce charisme incroyable qu'il dégageait. Je ne saurais pas répondre à cette question, mais peut-être ça serait un footballeur plutôt qu'un chanteur.
Oh non, ne bougez pas mon rêve, s'il vous plaît. Bon, on va continuer à parler de Catherine, le roman d'Yves Bigot qui est sorti chez Encre de Nuit. Juste avant qu'on passe au Pop News, un petit commentaire sur cette phrase que j'adore et que votre livre contredit superbement, qui dit « Si vous vous souvenez des années 60, c'est que vous n'y étiez pas ».
Oui, je crois que c'était Steve Martin qui avait dit
absolument.
Ça. Et je sais que Mick Jagger et d'autres aiment bien le répéter. Ben, c'est une manière de ne pas répondre aux questions qu'on leur pose. Et je crois qu'il y a une raison à ça. C'est que pour beaucoup des gens qui ont vécu cette époque, et surtout cette utopie, cet idéal et ces sentiments tellement forts, je pense que leurs rêves sont tellement brisés qu'ils ont beaucoup, beaucoup de mal à accepter d'en parler et d'y retourner. C'est aussi une des raisons qui m'a donné envie d'écrire cette fiction.
Excellente réponse, Yves Bigot. J'annonçais le pop break avec les pop news, et c'est tout de suite.
Et c'est ce matin que les nominations des Césars 2022 ont été annoncées. Et c'est Illusion perdue qui fait la course en tête avec 15 potentiels Césars, parmi lesquels film, réalisateur, second rôle, espoir. Annette récolte 11 nominations, dont une pour Adam Driver, Aline 10. Gilles Lelouch, François Civil, Karim Leclou, les trois flics en fâcheuse situation récoltent tous leurs nominations pour Bac Nord, qui en obtient 7 en tout. 6 nominations aussi pour La fracture de Catherine Corsini, dont 2 pour les fantastiques Valeria Bruni-Tedeschi et Aissatou Diallo Sagna, et 5 nominations pour Boîte Noire, dont une pour le non moins fantastique Pierre Ninet, résultat le 25 février.
On va se calmer sur Pierre Ninet quand même.
Et Pio Marmaille aussi, je pouvais ajouter, que je trouve fantastique dans La fracture.
Bon. Alex Capranos et compagnie viennent de dévoiler un nouveau single, un inédit de Franz Ferdinand, titré Curious. Ce titre, Curious, le deuxième inédit dévoilé en quelques mois, figurera sur Hits to the Head, le premier best-of de Franz Ferdinand qui sortira le 11 mars. Et petite dédicace au passage à Audrey, une fidèle normande de Pop et fan inconditionnel de Franz Ferdinand.
La meilleure émission politique à forte teneur satirique est de retour.
Popperment, this is going to be a delight.
Praise be to you, my John.
Let's talk about immigration, plastic, Afghanistan, a giant bunny, guns. You know, big pew-pew sticks that go boom-boom. Oh, shit!
Last Week Tonight with John Oliver, citoyen britannique en terre yankee sur HBO, va passer au crible la pandémie et ses conséquences, l'administration Biden, mais aussi le paysage politique très fragmenté aux États-Unis. La saison 9 inédite arrive sur OCS le 22 février avec des guests annoncés, Will Ferrell, Cardi B ou encore Georges Clooney.
France Inter. Pop. Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi.
C'est vous.
Non. C'était Pierre Ninet.
Non, c'est pas vous. Vous faites très mal Pierre Ninet.
Pas du tout. Je fais très bien Pierre Ninet. Pierre Ninet lui-même me dit que je fais très bien Pierre Ninet.
Je crois que c'est faux. Je crois que vous mentez.
Oui, c'est moi. C'était vraiment du Pierre Ninet. Ça. Bon, merci, Charline. Yves Bigot, repartons à la suite de Catherine dans la fin des années 60 avec ce roman que vous venez de publier. Et on a l'impression que Catherine traverse une époque où tout se fait pour la première fois. C'est-à-dire une époque, vous l'avez rapidement dit au début de l'émission, complètement à l'inverse de la nôtre, où rien n'est encore cynique, méta quelque chose, post-moderne, désenchanté. C'est pour ça que cette jeune femme est comme l'incarnation de ce moment, éternellement jeune, d'une certaine manière.
Ben c'est ça qui est aussi excitant dans cette période et qui crée une telle nostalgie aujourd'hui. C'est que tout était possible, les premières fois on ne les oublie jamais, et surtout, à l'inverse de ce qu'on vit aujourd'hui, chaque matin, quand on se réveillait, même si tout n'était pas rose, évidemment, on avait l'impression que le monde serait meilleur qu'il n'était la veille. Ouais. Et donc, l'espoir, c'est ce qui a disparu aujourd'hui.
Catherine est constamment sur la route, même si on ne connaît pas forcément ça ou ses destinations, elle non plus d'ailleurs. Ce mouvement constant, est-ce que c'est aussi ce qui caractérise l'époque ?
Oui, bien sûr, c'est « On the road » de Jacques Kerouac. Et puis, c'est la grande migration. C'est la migration des New-Yorkais et d'ailleurs de tous les Américains vers la côte ouest, hein, San Francisco ou Los Angeles. Mais c'est la migration des Européens vers l'Amérique, de beaucoup de hippies vers l'Inde, vers le Népal, l'Afghanistan, etc. Donc, oui, c'est le moment où, en fait, on découvre le monde et on découvre le monde à l'époque, à travers sa culture. C'est-à-dire, on va chercher ailleurs ce qui nous manque, quelles sont les pépites qu'on pourrait retrouver, qui donneraient un sens, un éclairage, une lumière à nos vies. Et c'était quelque chose de merveilleux. Ça n'a rien à voir avec le tourisme de masse qu'assassine d'ailleurs Houellebecq dans Plateforme.
Et alors, Catherine a ceci de particulier, elle est musicienne et athlète. Pourquoi lui avoir donné cette double nationalité, si je puis dire? Ce ne sont pas deux communautés qu'on a l'habitude de réconcilier.
C'est exactement pour cette raison. Parce que moi, une de mes difficultés, quand je grandissais, donc un peu après ces années-là, hein, que je n'ai pas vécu en direct, c'était effectivement d'être footballeur et totalement fan de rock. Et à l'époque, les gens du football détestaient les gens du rock et les hippies, et les gens qui avaient les cheveux longs, sous prétexte que on se droguait. On a découvert plus tard qu'en fait, les sportifs se droguaient beaucoup plus que les rockstars.
Ça s'appelle le dopage.
Exactement. Ouais. C'est paradoxal, mais c'est ironique. Mais oui, à l'époque, j'étais coincé entre ces deux mondes, et donc j'ai voulu que mon héroïne, elle, réussisse à les réconcilier.
Vous dites cette chose terrible, Yves. Vous dites, toute femme qui se libère, ça se termine mal, en tout cas dans ces années-là. Ça veut dire que la libération se heurtait nécessairement à une résistance très forte, à de la violence.
Oui, bien sûr, parce que, justement, elles étaient encore considérées comme des mineurs à l'époque, et que chaque fois qu'elles se libéraient, ben, ça créait du scandale, ça créait de la résistance, et c'est très bien mis en scène, notamment dans Le Mépris, hein, de Godard, avec Bardot, mais aussi dans La fille à la motocyclette, hein, avec Marianne Faithfull, etc. Donc beaucoup, le cinéma, la littérature de cette époque chronique très bien cette espèce d'espèce de vengeance karmique contre les femmes qui voulaient se libérer de l'État, de l'Église, des parents, de la société. Et heureusement que ça a changé.
Votre roman est sorti quasiment en même temps que Flashback Acid, la deuxième partie des mémoires de Philippe Manœuvre. Hasard ou coïncidence, d'autant que vous êtes l'un...
Et perso d'Antoine de Caunes.
Vous êtes un des personnages du livre de Philippe Manœuvre. Donc c'est hasard ou coïncidence.
Alors écoutez, ça n'existe pas, vous savez.
Ni hasard ni coïncidence.
Voilà, je vais pas vous citer Roland Barthes, non, il n'y a pas de coïncidence.
Parce qu'il parle d'ailleurs, dans ses mémoires, de votre obsession commune pour cette phrase tirée du Absolutely Sweet Mary de Dylan. But to live outside the law, you must be honest. Pour vivre hors la loi, il faut être honnête. On lui a posé la question, on sait que ça tient de la vie, selon Philippe Manœuvre. Et pour vous, est-ce que c'est toujours un mantra? Et d'ailleurs, est-ce qu'il ne s'appliquerait pas un petit peu aussi à Catherine, d'une certaine manière?
Oui, bien sûr, parce que dès lors qu'on sort des codes, il faut être absolument impeccable, parce que sinon on va se faire immédiatement choper, rattraper, et on perdra cette liberté qu'on avait acquise et qu'on recherchait à tout prix.
Mmh. À la même époque, on parle ici de la fin des années 60, hein, la France était beaucoup plus concernée par les soubresauts politiques que par le flower power. Est-ce que ça veut dire que nous, on est passé à côté d'un truc important? Parce que ça n'a pas empêché Johnny de chanter San Francisco, bien sûr.
Oui, justement, mais ça nous faisait rire. Mmh. Oui, la France est passée en grande partie, pas complètement, hein, à côté de ce mouvement qui était vraiment un mouvement anglo-saxon, parti de la Californie, hein, et qui a très vite conquis Londres, ouais, l'Angleterre, ouais. Et puis évidemment tout le reste des États-Unis et des pays anglo-saxons, même en Europe, hein, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, toute la Scandinavie. Mmh. En France, c'était plus compliqué parce que chez nous, tout est toujours beaucoup plus politisé, idéologisé, et donc en France, mai 68 écrase cette période. Mmh. Et mai 68, certes, c'était un mouvement qui a été assez spontané, qui était joyeux, qui était déclenché par au départ, hein, la goutte d'eau, l'attentat de Sarajevo, hein, c'était l'interdiction aux garçons d'aller dans les dortoirs des filles. Mmh. Donc il y avait une composante de libération sexuelle, hein, aussi, qui était importante et qu'on retrouve évidemment chez les hippies aussi. Mais les hippies n'étaient pas politisés. Oui, ils étaient contre la guerre du Vietnam, oui, ils étaient contre le racisme, etc. Mais ils ne voulaient pas se présenter aux élections, ils ne voulaient pas prendre le pouvoir. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont échoué. Là où beaucoup des leaders de mai 68 ont réussi, mais ils ont réussi dans tout à fait autre chose que ce qu'étaient leurs idéaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont transformé ce qui était un idéal politique révolutionnaire, en fait, en culture. Mmh. Alors c'est pas mal de transformer en culture. Mais du coup, cette période-là des années 60, elle est perçue très différemment en France de ce qu'elle a réellement été. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup moqué les hippies en France, parce que on trouvait que ils voulaient pas mettre le feu aux usines, ils voulaient pas prendre le pouvoir, et ils avaient pas des drapeaux rouges.
Et voilà pourquoi il faut lire Catherine, le roman d'Yves Bigot, sorti en novembre chez Encre de Nuit, une véritable bouffée de liberté en ces temps légèrement anxiogène. Yves, dans la suite de Pop Pop Pop, nous allons parler de...
Je suis déjà allée dans un club. Non, je t'y emmènerai. Tu pars en Californie.
Pour les vacances?
En formation de profiler d'un an à l'école de police de Sacramento.
Key West is the place to be if you're looking for immortality.
De Woodpecker, de la série Wilder, de Twist à Bamako et de Bob Dylan, bien entendu. Mais avant ça, je vous propose d'écouter ensemble Pete Doherty et Frédéric Lowe, c'est The Fantasy Life of Poetry and Crime.
Chime in time to a vicious low whine of a chainsaw's grind in the summertime. There's a coppery taste, a gun in your face. High planes drift, slice shape shift across the maritime in the estuary. There's a clue to find in the fantasy life of poetry and crime. Hold Normandy and Saint Maritime in the fantasy life of poetry and crime.
See life of poetry and crime.
Doherty et Frédéric Law, The Fantasy Life of Poetry and Crime. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Eh oui, on a bien sûr reconnu l'accord d'ouverture de The Hard Day's Night des Beatles. Et ça, pour vous, c'est la quintessence de la pop culture, Yves.
C'est le son qui fait tomber les murs de Jéricho ou qui annonce, voilà, qui annonce que les portes du paradis vont s'ouvrir. Mais c'est le moment du lancement justement des années 60 et de cette culture absolument inouïe. La preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui.
Ouais, ouais. Très bien. Et bien. Explorons donc encore un peu plus profondément vos choix pop du moment puisque c'est l'heure de votre popliste. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série que vous attendez. Le livre que vous avez choisi, c'est Still Life with Woodpecker de Tom Robbins. Alors Charline, je sens que ça n'a rien à voir avec Woody Woodpecker.
Vous voulez nous faire le petit cri peut-être ?
Mon héros.
Non. Je laisse un moment, non j'y vais. Non, le titre français est Mickey le Rouge, célèbre hors-la-loi qui, je cite, manie la dynamite avec panache pour redessiner les contours d'un monde en pleine dégringolade. Un hors-la-loi que va rencontrer à Hawaï, au festival de géothérapie, Lee Cherry, pom-pom girl, éco-engagé.
Alors Yves, pourquoi ce livre en particulier, un chant du cygne ou plutôt du pivert des années hippies ?
Alors d'abord j'adore Tom Robbins, qui est un romancier incroyable, qui n'écrit jamais la deuxième phrase aussi longtemps qu'il n'est pas parfaitement satisfait de la précédente. Et puis parce que ce livre, je le relis régulièrement, ça a été le cas puisqu'on m'a demandé à plusieurs reprises « mais quel est votre roman préféré ?» etc. Ben, oui, c'est celui-là, parce qu'il répond au moins à deux choses fondamentales, je pense. C'est comment faire durer l'amour et à quoi sert la lune.
Mais je le lis dès ce soir.
Je vous le conseille.
Il y a la réponse à ces deux questions.
Vous l'avez à la fin de Still Life with Woodpecker. Et la phrase d'ouverture est absolument invraisemblable.
Vous vous en souvenez ?
Parfaitement. Dans le dernier quart du XXe siècle, la vie dans le monde occidental était trop lente pour être véritablement excitante et beaucoup trop rapide pour être encore confortable.
C'est bien.
C'est bien, hein.
Oui, ça me plaît beaucoup, oui. Ouais. C'est Tom Robbins, donc Still Life with Woodpecker, recommandé.
Au Québec, le titre est traduit très précisément, c'est-à-dire « Nature morte avec pivert
». C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
J'aime beaucoup aussi. Passons à votre série du moment. Il s'agit de Wilder sur TV5 Monde. C'est une série suisse. Yves Bigot, vous ne cesserez jamais de me surprendre. Bande annonce avec l'accent suisse, peut-être, non Charline qui est.
Je vous laisse pour l'accent, non
qui est Wilder.
Alors déjà,
je relaisse un petit instant. Non, je laisse un
déjà, faut dire. Wilder.
Alors Wilder, Rosa de son prénom, inspectrice au sein de la police cantonale bernoise.
Et sinon, quoi de neuf?
Tout va bien. Je pars en Californie.
Pour les vacances ?
En formation de profiler d'un an à l'école de police de Sacramento.
Oh, on se refuse rien. Hein. Profiler. Dis donc, tes parents doivent être fiers.
Oui.
Tu entends, Roland ? Tu vois, toi, c'est ça qui te manque, de l'ambition.
C'est un choix très pointu que ce Wilder. Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans cette série ?
Ben Antoine, à TV5 Monde, évidemment, nous on est baignés dans les séries francophones, canadiennes, belges, suisses, françaises, africaines.
Je rappelle que vous avez des responsabilités à TV5 Monde.
C'est ça, oui. Depuis hier, je suis président directeur général.
Monsieur le Président.
Et donc c'est une...
Monsieur le Président, je reformule ma question. Pourquoi nous recommander cette série Wilder, s'il vous plaît ?
Ça c'était pour la blague. C'est une très bonne série suisse, c'est une série policière, comme vous l'avez compris. La première saison, notamment, il y a trois saisons qui sont disponibles sur notre plateforme gratuite TV5 Monde Plus. La première saison est incroyablement gothique. Ça se passe dans la neige, avec des intrigues aux entrées extrêmement multiples. C'est très très bien fait, c'est très intelligent, c'est très surprenant. C'est très exotique aussi, parce qu'on est dans des paysages et un monde, un petit village de Suisse alémanique. Et c'est vraiment extrêmement bien foutu. Et je me suis dit que les auditeurs de France Inter, ben peut-être, auraient du plaisir à la découvrir, plutôt que de citer les séries que tout le monde regarde et que je regarde aussi.
Wilder sur TV5 Monde, donc une série suisse. Votre film du moment, Yves, c'est Twist à Bamako de Robert Guédiguian. Charline, un Guédiguian qui ne se passe pas à Marseille.
Plutôt au Mali, en l'occurrence. En 1962, Samba, le fils d'un riche commerçant, parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. Et c'est là, en pays Bambara, qu'il rencontre Lara, une jeune fille sur qui pèse la menace d'un mariage de force.
Tu es déjà allé dans un club ?
Non, je t'emmènerai. On danse ici, on fait pas de politique. Va te changer, s'il te plaît.
L'énergie de la jeunesse a grand besoin d'être canalisée et doit servir à autre chose qu'à se trémousser.
Tous égaux.
C'est pas parce qu'on est tous égaux qu'on est tous pareils, tu sais.
Vous avez votre papier de mariage ?
J'espère que tu la vois plus. Elle est mariée.
On entendait Twist à Saint-Tropez, évidemment. Évidemment, on revient à Saint-Tropez. Hein. Ouais. C'est uniquement pour nous reparler de Saint-Tropez. Dans la version de Dick Rivers, évidemment. Ouais. Et non pas de celle de Bonheur des Dames.
Alors c'est pour parler du Mali. D'abord, c'est un très bon film qui chronique une époque totalement révolue, hein, celle à laquelle on écoutait du rock français à Bamako et dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est le moment des indépendances du Mali. Et Robert Guédiguian, qui est un cinéaste très engagé politiquement, pour le coup, a su faire un film extrêmement équilibré et qui pose bien les enjeux de la société malienne indépendante de l'époque, avec le marché versus le socialisme, le marxisme versus la liberté, la famille versus l'amour, parce que ce sont des Roméo et Juliette. Et d'ailleurs, Antoine, vous connaissez certainement le comédien qui incarne Samba Traoré, puisqu'il s'agit de Stéphane Bach.
Ah oui, effectivement, oui. Nous avons réussi à avoir dans cette émission, reçu, voulais-je dire, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, Yves Bigot, pour finir en beauté, votre choix musical, c'est un morceau du prix Nobel de littérature en personne. On écoute une partie du très long morceau Key West de Monsieur Bob Dylan, mais juste après que vous nous ayez expliqué pourquoi ce morceau-là, qui est un Dylan récent de 2020. Hein.
C'est ça, c'est le morceau qui clôture son dernier album, Rough and Rowdy Ways, un disque absolument remarquable. Et ce qui est incroyable chez Dylan à 80 ans, c'est que au cours de sa tournée en novembre-décembre qui reprend aux États-Unis à partir du mois de mars, il chante sur scène 8 des 11 morceaux de son dernier album. Mmh. Aucun autre artiste au monde ne fait ça, ni les Rolling Stones, ni Paul McCartney, ni quiconque. C'est dire la puissance de son expression aujourd'hui. Key West, c'est un morceau qui est une espèce de requiem, à la fois pour lui, pour sa génération. Tout cet album, un album prophétique, magnifique. Qui était tombé pendant le grand confinement du printemps 2020. Et c'était incroyable le timing qu'il y avait entre l'arrivée de ces chansons et ce qu'on vivait à ce moment-là. Et puis comme toutes les chansons de Dylan, elles sont durables.
C'est un long morceau de 9 minutes 40, comme un mantra qui se développe au fil des minutes. Ça s'appelle Key West, on vous en propose un large extrait.
McKinley Holler, McKinley Small, Dr. Sir McKinley, death is on the wall. Say it to me, have you got something to confess? I heard all about it, he was going down slow. I heard it all, the wireless radio from down in the blue docks, way down in Key West. I'm searching for love, for inspiration. On that pirate radio station, coming out of Luxembourg and Budapest. Radio signal, clear as can be. I'm so deep in love that I can hardly see. Down in the flatlands, way down in Key West. Key West is the place to be if you're looking for immortality. Stay on the road, follow the highway sign. Key West is fine and fair. If you lost your mind, you'll find it there. Key West is on the horizon line.
I was born on the wrong side of the railroad track. Like Ginsburg, Corso, and Kerouac. Like a Louie and Jimmy and Buddy and all the rest. Well, it might not be the thing to do, but I'm sticking with you through and through. Down in the flatland, way down in Key West, I got both my feet landed square on the ground. Got my right hand high with the thumb down. Such is life, such is happiness. Hibiscus flowers, they grow everywhere here. If you wear one, put it behind your ear. Down on the bottom, way down in Key West. Key West is the place to go, down by the Gulf of Mexico, beyond the sea, beyond the shifting sand. Key West is the gateway key to innocence and purity. Key West is the enchanted land. I've never lived in the land of Oz, or wasted my time with an unworthy cause. It's hot down here, and you can't be overdressed. Tiny blossoms of a toxic plant, they can make you dizzy like a hippie, but I can't. Down in the flatlands.
Alors, coupez la parole à Dylan, faut vraiment avoir peur de rien, hein. Mais je suis désolé à mes auditeurs, mais ce morceau dure exactement 9 minutes 40. Il est sublime et vous pouvez le trouver à peu près partout, hein. Il est extrait du dernier album en date sortie de Bob Dylan et nous écoutions ça grâce à Yves Bigot qui l'avait choisi aujourd'hui dans Pop Pop Pop. Merci.
Merci, merci beaucoup à vous, Antoine.
On va finir cette émission en écoutant quelque chose de tout à fait différent. C'est un peu n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi d'ailleurs. C'est le grand n'importe quoi d'Alexandre Verret. Écoutez.
Je t'aime.
C'est nécessitant un apocat de grâce.
Je t'aime de l'amour.
Un apocat de grâce, y'a pas mis pâté.
Et toi, tu m'aimes de l'indifférence.
Y arriba.
Toujours. Et encore.
Je n'en sais.
Et je suis.
Marinero.
Très déçu.
J'en sais.
Vraiment.
Capitaine.
Très déçu.
N'importe quoi. Ne quittez pas. Nous allons donner suite à votre appel. Afin de rendre votre temps d'attente le plus agréable possible, voici une très jolie musique. Ne quittez pas. Putain, c'est pas vrai. T'es encore là ? Bolos.
Très bonne musique d'attente, non ?
Excellent.
Je vous suggère ça pour le répondeur de TV5 Monde. Ça pourrait marcher très bien. Yves, merci de nous avoir rendu visite. Yves Bigot, venu nous parler de Catherine, son premier roman. Il était temps, publié aux éditions Encre de Nuit.
Merci beaucoup Antoine, merci Charline.
Merci d'être passé par chez nous et merci à toute l'équipe. Merci Charline, bien
sûr. C'est non, vous, merci.
Et merci à toute l'équipe de Pop et à Tiffany Battistel qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans l'émission, je ne sais pas ce qu'il y a demain.
On parlera de l'excellent film de Laurent Cantet.
Ah oui, c'est vrai, c'est ça. On parle de, qui s'appelle Arthur Rimbaud.
Absolument.
Ah mais oui, évidemment, Arthur Rimbaud. C'est demain dans Pop.